Allez, trois pizzas gratuites, la madame dans le melon, du beau melon, les quatre pour 5 euros.
Europe 1, 11h30, la table des bons vivants, Laurent Bariotte.
Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus, vous êtes ici chez vous, bien manger et comprendre ce que nous mangeons, telle est notre mission chaque samedi. Alors entre les produits de saison et le plat du jour, ce samedi, nous allons consacrer notre dossier aux chefs engagés pour une gastronomie responsable. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça change dans les menus? On va se mettre à table dans un instant. Ils sont installés, mes bons vivants, il a l'art et la recette pour nous rendre la cuisine facile, il a mis sa serviette sur les genoux et sa belle veste de cuisinier, c'est Yves Candebeau.
Présent, mon Laurent.
Bonjour Yves.
Bonjour tout le monde.
Si les bouteilles étaient des fleurs, ils nous offriraient un bouquet toutes les semaines. C'est Olivier Pouls. Bonjour Olivier.
Ben regardez, je vous ai apporté des bouteilles parce que les fleurs, c'est périssable, comme disait Jacques Brel. Hein,
exactement, donc bien vu. Ce samedi, Fanny Rascle va nous rejoindre pour le journal de la cuisine. Jean-Luc Petit-Renaud, lui, se réjouit de l'arrivée des coquilles Saint-Jacques. Et il n'est pas le seul. Nous partagerons le plat du jour avec un musicien sans frontières. On l'adore. Manu Dibango mettra les pieds sous la table dans un instant. Voilà, vous savez tout, il n'y a plus qu'à. Alors avant notre marché hebdomadaire, un marché particulier, vous allez entendre dans un instant, c'est le moment de faire appel à notre mémoire. Quel goût vous a marqué cette semaine? On va commencer par vous, Yves Candebord. Et avant toute chose, je dois vous dire qu'on vous félicite. Vous êtes le champion du Pédnon. Il a remporté ce joli festival entremets à Chartres. C'est vous qui avez gagné le Pédnon.
Oui, c'est mon premier titre de champion du monde de Pédnon. D'ailleurs, je vais le marquer sur ma carte de visite.
Ça jette hein, sur la carte.
Que ça jette, c'est ronflant.
Bah et comment
Sur l'aventure du restaurant aussi, c'est très bien.
Votre goût de la semaine, cher Yves.
Eh bien, mon goût de la semaine, c'est la mémoire. C'est la mémoire de Jean-Pierre Amoureau qui a écrit un livre qui s'appelle « Plus pur que l'eau » chez Fayard. Je trouve ça très intéressant de lire des livres comme ça, de personnes qui ont vécu. Jean-Pierre est quand même pas loin de 80 ans.
Un livre sur le vin.
C'est un livre sur le vin. Il raconte un peu toute l'histoire du Bordeaux, toute sa vie à lui, ses ancêtres. Je crois que c'est très important pour nous les jeunes, voilà, parce que je me considère encore très jeune,
mais vous êtes...
de comprendre le passé pour vivre le présent et surtout préparer l'avenir.
Exactement.
Et malheureusement, il y en a tellement qui sont partis, comme Marcel Lapierre, comme Daguenau, qui sont partis avant de nous laisser des écrits. Donc, il faut lire. Savoir ce qui s'est passé avant.
Et c'est un très beau titre en plus.
Et c'est un très beau titre.
Olivier Pouls, votre goût de la semaine, camarade.
Eh bien, rappelez-vous, au moment de la sortie du Michelin au mois de mars dernier, coup de tonnerre, coup de théâtre, Stéphanie Lequellec, à qui on attribuait 2 étoiles, annonçait quelques semaines plus tard que son restaurant La Seine, au Prince de Galles, fermait, décision de la direction un peu incompréhensible de l'établissement. Eh bien, la revoici, la revoilà. Nouvel établissement, La Seine, par Stéphanie Lequellec. C'est à Paris, dans le 8e arrondissement, avenue Matignon. Donc le nouvel univers de Stéphanie Lequellec que j'ai eu la chance de tester et qui est remarquable.
Eh bien, on prend. Eh bien, moi, mon goût de la semaine, figurez-vous que c'est la tourte de Monsieur Pouls, ici présent. J'ai eu la chance d'aller dîner chez Monsieur Pouls il y a quelques jours. Et vous nous avez fait une tourte giboyeuse, puisque ça y est, la chasse est ouverte, on en parlera tout à l'heure. Il y avait du canard col vert à l'intérieur, il y avait du sanglier.
Qu'est-ce qu'il y avait ? Non, alors, je vais vous dire, il y avait 6 ou 7 gibiers. Il y avait du riz de veau, il y avait de la sarcelle, il y avait du pigeon.
Oui, voilà.
Il y avait du foie gras, évidemment.
C'était magnifique. Et alors, moi, j'ai admiré ce feuillage. Alors, vous avez acheté une belle pâte feuilletée. Mais qui est magnifique. On trouve évidemment de très bonnes pâtes feuilletées. Mais il y avait une garniture épaisse, généreuse. Et vous savez, Yves, cette petite garniture bien hermétique avec la pâte feuilletée. C'est-à-dire qu'elle était riche, elle était généreuse. Et j'ai encore le goût en bouche de cette tourte. Donc, bravo, monsieur Pouls.
Quel honneur.
Pour votre belle tourte giboyeuse.
Mais écoutez, j'en veux, moi.
Et alors, ça fait de la concurrence à Yves. Attention, tiens-toi bien, mon ami.
Ah non, c'est pas la concurrence.
Devinette, tiens, les copains, elle a 30 ans cette année, elle va toujours à l'école, c'est la semaine du goût. Voilà, la semaine du goût, il y a eu des leçons de goût partout en France dans les écoles.
La semaine du sucre
voilà.
Aussi.
Non, c'était au début le sucre, c'est fini. C'est vrai que c'était la générale du sucre qui finançait la semaine du goût, mais il faut arrêter. Enfin, la semaine du goût c'est très bien, mais il faut des semaines du goût tous les jours à l'école, ça nous sommes d'accord. Vous le savez, les leçons de goût, ce sont des chefs qui se déplacent dans les écoles pour prêcher la bonne parole des produits de saison et des produits de qualité. Nous nous sommes faufilés dans la cantine de l'école primaire Émile Zola à Saint-Ouen. Babette de Rosière cuisinait des saveurs venues d'ailleurs pour des enfants de 6 à 11 ans. Voici une petite leçon de goût au micro de Julien Amat.
La semaine du goût, c'est la transmission. C'est l'éducation du goût aux enfants. Découvrir d'autres sensations, d'autres goûts. Et ça, les enfants adorent ça. C'est l'éveil des sens des enfants. Comme aujourd'hui, j'ai apporté des produits exotiques venant de l'outre-mer. Et l'outre-mer, c'est français.
Ce fruit qu'on appelle carambole.
Alors, quand on coupe le carambole, ça fait effectivement des petites...
Ça fait des petites étoiles comme ça.
Ça a le goût de l'herbe, mais c'est très bon sinon.
Alors le menu, je leur fais du poisson. Il y a des enfants qui n'aiment pas le poisson, et je comprends pourquoi ils n'aiment pas le poisson, parce qu'ils le connaissent en petits carrés. Tandis que là, ils vont avoir un vrai filet de poisson, et j'ai pris l'espadon.
À peu près comme un requin, mais son nez, il est piquant.
Alors on met du curcuma.
Trop bon.
Je vais mettre maintenant le jus de citron.
Pendant une seconde, je me suis dit, on dirait un peu du poulet comme ça.
Mais je vais plutôt piquer la recette à Babette, après j'irai vous faire chez moi.
Ça c'est malin, t'as raison bonhomme, bravo, bien joué.
Futur cuisinier,
C'est toujours bien de découvrir de nouvelles saveurs à l'occasion de cette semaine du goût, Yves Candebeur.
Oui, parce que je pense justement, c'est à ce moment-là que les enfants sont sans doute beaucoup plus ouverts à la découverte que dans le milieu familial. En plus, quand c'est apporté par quelqu'un comme Babette, elle amène de la boulimie, elle amène de l'envie, elle amène du plaisir. Donc les enfants s'amusent et découvrent. Et c'est important de faire découvrir les nouvelles saveurs aux enfants. Parce qu'il faut arriver à diversifier les repas au quotidien.
Exactement, bien sûr. Et qu'on mange mieux dans nos cantines, si ça peut être aussi l'occasion de mettre un coup de projecteur sur les vrais chefs cuisiniers dans nos cantines scolaires. Olivier Pouls.
Mais à quand un cours régulier d'alimentation à l'école ? L'alimentation, c'est ce qu'il y a de plus important. C'est la première des médecines préventives. Ça donc nous accompagne toute notre vie. On continue à nous apprendre des théorèmes de maths dont on ne se servira jamais, alors qu'apprendre à cuisiner, on s'en servira tous les jours.
Il y en a qui s'en servent des théorèmes de maths, mais
pas
c'est
moi.
Vrai que c'est une belle matière première, évidemment, la cuisine et la gastronomie. Allez, de la cour d'école au marron, il n'y a qu'un pas que nous allons franchir allègrement. On vous emmène dans un instant ramasser les châtaignes dans l'Aude. Alors au fait, marron ou châtaigne ? On va tout vous dire juste après ça.
11h30 sur Europe 1, la table des bons vivants. 11h30 sur Europe 1, Laurent Mariotte vous accueille à la table des bons vivants.
On dirait un petit oursin tombé des arbres. On va être franc hein, tout de suite, la châtaigne n'est pas un marron comme les autres. Alors ça fait débat, ici même autour de cette table, qu'est-ce qu'on dit, châtaigne ou marron, comment on les reconnaît? Yves, quand déborde.
Sur un terrain de rugby, oui. Un marron ou une châtaigne, je peux vous assurer, c'est la même chose.
Oui, ça laisse un bleu, c'est ça,
ça laisse un bleu.
Alors, c'est pour ça.
Mais je pense qu'il y a une confusion aussi par rapport aussi au cours d'école.
Au marron.
Voilà, on a les marronniers dans les cours d'école, mais c'est vrai que le marronnier est souvent en ville, que le châtaignier est à la campagne et dans les forêts.
Et le marron d'Inde des cours d'école n'est pas comestible. Ne vous avisez pas à cuire ces marrons-là qui ne sont pas comestibles. On va être très simple pour faire la différence entre une châtaigne et un marron comestible. C'est un châtaignier qui donne les deux arbres. Il y a les bogues qui tombent, vous savez, ces belles écorces avec des piquants. Sous ces bogues se trouve un fruit avec une écorce, qui est la châtaigne ou le marron. Et quand on ouvre cette écorce, s'il y a un seul fruit sans cloison, c'est un marron dans l'appellation gastronomique. Et s'il y a plusieurs fruits cloisonnés par des petites peaux, ce sont des châtaignes. Voilà tout simplement comment on les
C'est exactement ça, c'est le seul moyen de différencier très facilement.
Olivier Pouls, vous êtes amateur de marron et de châtaigne ?
Oui, parce que j'avais à l'école, il y avait un châtaignier justement dans la cour, je me souviens très bien, je me mettais en hiver au fond de la classe, à côté du radiateur, j'en avais quelques-uns dans ma poche, et les radiateurs étaient bien chauds, et je les laissais pendant une heure ou deux sur le radiateur, puis je les mangeais à la récré.
Alors la châtaigne aussi, qu'on appelle le marron du pauvre, parce que longtemps, le châtaignier était appelé l'arbre à pain, parce que pendant les périodes de famine, on se réfugiait sur le châtaignier qui donnait comme ça, eh bien, de la consistance. Une matière nourrissante, rassasiante, et puis on pouvait en faire de la farine aussi. Il y a plein de régions de prédilection en France, Olivier, de marron et de châtaigne.
Oui, bon, on peut parler de l'Ardèche, évidemment, qui possède d'ailleurs une appellation d'origine protégée.
Hein. Ouais.
Les châtaigneraies qui s'étendent de Boutières aux Cévennes. Et on cultive, je crois, à peu près 65 variétés de châtaigniers différents. C'est-à-dire que c'est vaste aussi.
Puis oui, on a domestiqué la châtaigne aussi, hein, pour avoir des châtaigniers qui ne donnent que des gros marrons.
Et puis la Corse aussi, grande région productrice. Et le Limousin, qui représente à peu près, je crois, 30% des volumes de la production française.
Et sans oublier l'Aude où nous emmène Benjamin Peter, immédiatement direction les châtaigniers de la Montagne Noire dans le Haut-Cabardès. On y produit du très bon vin, vous savez, dans cette région, mais pas que, il y a beaucoup de châtaigniers. Et Geoffroy Houlès cultive 8 châtaigneraies. Son exploitation s'appelle l'Atelier du Marron et il transforme lui-même sa récolte. Écoutez, Geoffroy Houlès au micro de Benjamin Peter.
Donc la bogue l'a bien séchée, elle s'est bien ouverte, elle est tombée au sol. C'est le vent qui les fait tomber et après nous on ramasse les châtaignes là comme ça. Et là c'est super. Ça se ramasse à la main et avec des gants surtout. On pourrait ramasser sans les gants, hein, ce que je fais des fois, mais bon, le bout des doigts devient tout noir à force de se prendre des pics dedans. Donc on met des gants et également sur les filets. Donc on a un système de filets sur quelques châtaigneraies parce que ben, c'est plus facile. Et là voilà, on a des beaux marrons. Là c'est des marrons, hein. C'est du marron d'eau largue, hein, c'est la variété. Ramasser comme ça à la main, ouais. Je vais en transformer une tonne et demie, quelque chose comme ça. Ouais, je vais le vendre en frais. Ben, une tonne et demie, ça fait déjà beaucoup de crème de marron, de sirop et de marron entier. Et cette année, je vais faire de la purée de châtaigne. Puis, il y a deux positions. soit on est accroupi, voilà, soit on se met debout et puis le dos un peu droit, mais il faut qu'il soit bien droit pour pas avoir mal au dos le soir.
C'est du sport.
En fin de journée, j'ai pas besoin d'aller faire du sport.
Eh bah tiens.
Je l'ai fait toute la journée.
Merci Geoffroy Houlès au micro de Benjamin Peter. Voilà, nous étions dans l'Aude. Et si vous voulez retrouver les transformations et les préparations de Geoffroy, c'est l'atelier du marron et vous trouverez ça sur internet, bien évidemment. Je rigole parce que Yves Candebord est à la tête d'un petit enfant qui se régale de crème de marron. On en a plein autour de nous. On a des crèmes de marron, des confitures de châtaigne. Vous aimez ça, hein, cette petite noix sucrée, hein?
Oui, j'aime ça. Mais parce que vous savez pourquoi j'aime ça? Parce que c'est des produits de saison. Je dis pas, j'en mangerai toute l'année. Parce que c'est quand même consistant, c'est riche, et à mon goût, c'est quand même un peu sucré. Mais bon, le marron glacé, justement, c'est le sucre qui enrobe le marron, qui amène toute son âme. Mais il faut savoir, Laurent, aussi, que le marron, ce qui est intéressant, c'est en salé. Parce que souvent, on l'oublie. En plus, en ce moment, avec les produits de chasse, quand vous avez la chance d'avoir, par exemple, un beau dos de cerf rôti accompagné d'une purée de marron, c'est merveilleux et c'est facile à faire.
Avec un velouté de petits marrons, si on peut le marier, des petites brisures de marrons comme ça à la surface qu'on aurait cuit au four.
Ouais, totalement. En plus, en ce moment aussi, c'est la pleine saison du potimarron. Faire une crème de potimarron et juste râper des copeaux de châtaigne crue avant de verser la crème de potimarron, c'est merveilleux parce qu'il y a une petite amertume. On n'amène pas de sucré, on amène une légère amertume et un petit croquant avec le côté cru de la châtaigne, c'est très agréable.
On achète et puis aussi un moelleux au chocolat. Moi, je fais ça tout simplement avec une crème de marron à l'intérieur. Quand vous l'ouvrez comme ça, il y a ce chocolat qui coule et cette crème de marron qui vient se confondre et se marier avec le chocolat. C'est un bel accord. Et ben voilà, on vous mettra des recettes évidemment sur europe1.fr. Bonne cuisine, hein, si vous êtes en train de la faire pour ce week-end. Vous le savez, elle passe toute l'actualité de l'agriculture et de la gastronomie à l'épuisette. Fanny Rascle arrive dans un instant avec son journal de la cuisine. On fera un très beau dossier sur la gastronomie responsable avec le chef engagé Florent Ladenne qui sera avec nous dans un instant. A tout de suite, ne bougez pas.
Oui, moi je mange des marrons de la maison Sabaton, tiens. Oh.
La table des bons vivants sur Europe 1. Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Agriculture, gastronomie, alimentation, vous le savez, rien ne nous échappe à la table des bons vivants. Alors pendant que Marion Sauveur se prélasse sous les cocotiers, c'est le moment d'accueillir Fanny Rascle, elle aussi à l'affût des dernières nouvelles de la planète cuisine. Bonjour Fanny.
Bonjour Laurent, bonjour à tous.
Soyez la bienvenue Fanny. Alors les titres du journal de la cuisine, des agriculteurs en colère, du miel français en vente directe sur internet et des recettes de grand-mère, c'est le menu du journal de la cuisine. Des agriculteurs mobilisés contre l'agribashing, Fanny.
Oui, ils se sont rassemblés mardi à l'appel de la FNSEA, le syndicat majoritaire, pour dénoncer cette impression d'être dénigré, d'être rejeté par les Français. Ce qui a mis le feu aux poudres, c'est le débat autour des zones où les pesticides pourraient être interdits. Ils en appellent au gouvernement, bien sûr, mais leur mouvement va bien au-delà. Écoutez Jérémy Dutour, qui représente les jeunes agriculteurs. Il était l'invité de Nathalie Lévy sur Europe 1.
Aujourd'hui, on réalise avec fierté notre métier au quotidien. On essaye de coller au mieux aux attentes des consommateurs. Ils ont aussi les clés entre leurs mains. Acheter français.
Et cet argument-là, de plus en plus de chefs l'entendent. Évidemment, ils travaillent pour renouer un lien avec les agriculteurs. Laurent, vous recevez juste après l'un de ces chefs éco-responsables, Florent Ladenne.
Exactement, des chefs engagés, comme on dit. C'est aujourd'hui la journée des compagnons du miel.
Les compagnons du miel, ce sont 120 apiculteurs réunis dans une même coopérative. Ils vous donnent rendez-vous dans l'Aveyron, le Cher, le Jura, la Marne et le Tarn pour des animations. Mais surtout, ils lancent une boutique en ligne de la vente directe de miel au prix juste et avec une origine France garantie. Toutes les infos, c'est sur lescompagnonsdumiel.fr.
Soutenons nos apiculteurs, surtout que là, il n'y a pas eu beaucoup de miel ces derniers temps. Le lait est plus hydratant que l'eau. Alors ça, c'est une nouvelle qu'Olivier Pouls va découvrir aussi.
C'est
que
le vin.
Exactement, c'est la conclusion d'une étude menée par des chercheurs en Écosse. Ils ont testé 13 boissons, le thé, le jus d'orange, des sodas aussi. Et c'est le lait qui l'emporte parce qu'il est assimilé plus lentement que l'eau, donc il laisse le corps hydraté plus longtemps.
Mais évidemment. Fanny, c'est l'heure de votre cerise sur le gâteau et aujourd'hui, vous nous parlez du Grand Mass Project.
Ah oui, c'est un projet génial avec une idée toute simple au départ. Donner une caméra à un jeune homme ou une jeune femme pour qu'il filme sa grand-mère en train de préparer la recette familiale, celle qui raconte une tradition, des souvenirs, une histoire commune. Ça donne des toutes petites vidéos diffusées sur internet bourrées de sensibilité,
oui, c'est très bien.
D'amour, c'est drôle, en plus des super recettes évidemment. Là par exemple, c'est Yaya qui prépare un soufflé au fromage.
C'est archaïque, hein, ce four.
Hé, la râleuse.
C'est ma nature, hein, on n'a plus rien.
Mais non, faut combattre ça. T'en fous maintenant.
Hein. Ouais, perdument.
Voilà, c'est
mais
tout
c'est
en
bien
de râler,
ça veut dire qu'on est en bonne santé, alors c'est important, râler madame. Fanny.
Et donc ils sont en train de préparer la saison 2, voilà, c'est pour ça qu'ils ont besoin de deux choses. La première, c'est de l'argent. Chaque fois qu'ils récoltent 5000 euros, ils lancent une nouvelle vidéo. Et la seconde, ben, c'est de super grand-mère. Donc si vous êtes étudiant en cinéma ou déjà un peu dans le métier, et surtout que vous avez la chance d'avoir une grand-mère qui a une recette géniale, eh bien vous pouvez postuler, c'est jusqu'au 5 janvier 2020.
Et pourquoi pas un grand-père ?
On vous mettra les références
un
sur Europe1.fr.
Ouais,
et les grands-pères aussi, vous avez raison. Mais là, c'est Grand Mass Project, ce sont les grands-mères. Merci Fanny Rascle.
À la semaine prochaine.
Et à la semaine prochaine, exactement. De la nouvelle cuisine à une gastronomie responsable, les chefs jouent un rôle capital, hein, vous le savez, dans notre alimentation. Bien souvent, ils sont à l'origine d'une prise de conscience qui nous permet de mieux manger. C'est le cas de 10 chefs engagés pour une gastronomie responsable, réunis dans un très beau livre que j'ai ici qui s'appelle « Les incontournables ». C'est paru aux éditions 180 degrés. Et parmi ces chefs incontournables, en voici un qu'on aime beaucoup à cette table, tout droit venu de ses Flandres natales, c'est Florent Ladenne. Bonjour Florent Ladenne.
Bonjour.
Merci d'avoir fait le déplacement depuis votre belle auberge du Vermont à Beuchop dans les Flandres. Vous êtes à la tête de cette auberge depuis plusieurs années. Vous avez également le Blompot à Lille, le Bierbuik à Lille. Et vous ne cuisinez que ce qui pousse autour de chez vous. C'est bien ça votre philosophie.
C'est ça, on ne cuisine que ce qu'on a chez nous, pas forcément ce qui est endémique, parce que il n'y a pas beaucoup de produits endémiques. Ça voudrait dire que dans le nord de la France, si on faisait que ça, on ne pourrait pas faire de pommes de terre. Je ne me vois pas ne pas faire de frites chez moi. Mais dès qu'il y a quelque chose qui est capable, en mesure en tout cas, de pousser chez nous, d'être travaillé par des gens de chez nous, on le travaille chez nous.
Et je vous connais depuis plusieurs années, Florent, je suis allé vous voir à l'auberge du Vermont. Ce n'est pas du tout une posture pour être dans l'air du temps chez vous. C'est vraiment votre façon d'être. Comment il est venu ce déclic en fait, de cuisiner avec des produits qui sont originaires de 50 kilomètres autour du restaurant, on va dire.
Oui, comment c'est venu ? Par un constat très simple, en fait. Je faisais de la carbonade flamande il y a quelques années et je me suis rendu compte en lisant les étiquettes que mon bœuf était allemand, abattu en Pologne, que mes oignons venaient d'Espagne, que la bière avec laquelle je travaillais était tchèque, que j'utilisais du pain d'épices fait avec du miel de Chine. Et je me suis dit, mais la Flandre, c'est un terroir vivant, c'est quelque chose dont je suis très fier. Et ma carbonade n'a de flamande que le nom.
Et ouais, donc c'est dingue. Donc voilà, là, maintenant, ça y est, c'est une vraie carbonade.
Maintenant, oui, quand j'en fais.
Quand vous en faites, oui, vous en faites pas tout le temps. Mais au Blompot, vous pouvez en faire de temps en temps.
Oui,
quand même.
Blompot, au Blomke, mais j'en ai fait beaucoup trop.
Vous remarquez l'accent de Laurent concernant le Blompot. Hein.
Le Blompot,
des Flandres.
Alors, dans ce livre, plusieurs chefs créent leur potager, un autre ne sert plus de viande, un deuxième paye le prix fort aux producteurs, d'autres utilisent uniquement les produits de leur terroir. J'ai envie de les citer, tous ces chefs. Vous qui êtes en région et qui vous nous écoutez, ça va forcément vous parler. Il y a Julien Alano dans la Drôme, Cyril Atrasic en Lozère qui se lève très tôt le matin pour aller faire son marché juste à côté dans l'Hérault pour ne pas faire non plus 12 000 déplacements. Jacques et Régis Marcon en Haute-Loire. Olivier Nasty en Alsace qui est venu ici. Catherine et Hervé Bourdon dans le Morbihan. Alexandre Couillon en Vendée. Christophe Hay dans le Loir-et-Cher. Jean Sulpice en Haute-Savoie. Glenn Viel dans les Bouches-du-Rhône. Et vous, Florent Ladenne dans les Flandres. Je voulais vraiment tous citer ces chefs parce que, encore une fois, ce n'est pas une question de posture. Qu'est-ce que vous avez en commun avec tous ces chefs de la nouvelle génération, vous diriez, Florent Ladenne ?
Je pense qu'on a la chance aujourd'hui d'être dans une période où si on se pose un peu de questions, on peut avoir beaucoup de réponses aux questions qu'on se pose et qu'on en fait tous preuve d'une prise de conscience sur l'impact que notre consommation a, sur la façon dont on remplit les assiettes, sur les répercussions que ça peut avoir sur la planète ou même sur l'homme.
Olivier Pouls.
Bon, je salue évidemment cette démarche, il y a beaucoup de sens dans tout ça, mais quand même, l'histoire de la cuisine, l'histoire de la gastronomie, elle est faite des voyages. Les épices, le café, le chocolat, on ne peut pas en faire à Lille. Est-ce qu'il faut bloquer le commerce mondial finalement et ne manger plus qu'à 50 km autour de chez soi ?
Vous avez raison, quelque part, mais je pense que l'histoire de la cuisine française est faite aussi par les terroirs français. Qu'un chef français n'est pas meilleur qu'un chef belge. On va se rejoindre là-dessus.
Ça, c'est vrai.
La seule différence qu'il y a entre les chefs français et les autres chefs, c'est qu'on a des vrais terroirs et que là, on est en train de tout lisser. Je pense que c'est dangereux ce qu'on est en train de faire.
Pas de café chez vous, de la chicorée par exemple. Nous faites aussi découvrir des aventures et des découvertes culinaires. C'est ça aussi le rôle d'un chef cuisinier, Yves Candebordes ?
Oui, je pense que chacun a son domaine, chacun a sa petite histoire et chacun veut arriver à faire ressentir ça à son client. Mais c'est vrai que par rapport à la démarche que tous ces amis cuisiniers font, moi je trouve ça exceptionnel. Après, je pense que c'est surtout dû aujourd'hui à l'explosion de la gastronomie française, je dirais sur la province. Parce que si on prend historiquement, il y a une quarantaine d'années, c'était quand même les grandes villes dont Lyon, Paris, Bordeaux. Aujourd'hui, voilà, il y a tous ces jeunes
qui racontent leur vie,
qui racontent leur territoire, qui racontent leur histoire et qui mettent ces produits. Mais c'est vrai, après, moi je suis désolé de dire, mais j'ai quand même envie de boire du café, j'ai quand même envie de boire un bon rhum, j'ai quand même envie de, voilà, d'amener dans mon univers personnel des produits d'ailleurs, que je trouve qu'il n'y a pas de non-sens non plus.
À une époque où la planète se réchauffe, la nouvelle génération des chefs propose des menus créatifs et respectueux pour la planète. On en parle avec Florent Laden ce matin à l'occasion de la très belle série de portraits de chefs engagés, Les Incontournables, édité chez 180 degrés. A tout de suite, on va passer les Flandres à la casserole.
On passe à table sur Europe 1. On passe à table sur Europe 1. Laurent Mariotte.
L'auberge du Vermont dans les Flandres, Bloempot et Bierbuik à Lille. Florent Laden est à la tête de 3 restaurants et dans aucun vous ne trouverez de café mais du pain maison, des oignons et des carottes qui poussent à 20 km, du cabri élevé dans le coin. On parlait de l'absence de rhum qui pourrait manquer à notre camarade Yves Cordebord. Vous faites un substitut de rhum, Florent Laden.
Il y a un rhum qui est fait en Belgique à base de mélasse de betterave.
Eh ben voilà, faudra qu'on goûte ça.
C'est pas aussi aromatique qu'un...
J'imagine, oui.
Mais vous vendez du vin.
On vend du vin, ouais.
La cuisine commence par se servir sur son propre territoire. Pour vous, Florent Laden, vous avez eu le déclic aussi en achetant des navets qui ne vous convenaient pas tout à fait. Racontez-nous.
Oui, je me souviens, c'était un hiver très sec. On coupait le bois chez des gens, pas très loin de chez nous. Il y avait une ferme juste à côté. Dans cette ferme, il y avait une grande bâche. Sous cette bâche, il y avait plein de navets en train de pourrir. Et j'ai demandé au fermier, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe avec tes navets? Il dit, bah, y a personne qui a voulu me les acheter. Voilà. En entendant ça, je me suis senti très très bête. Parce qu'à cette époque-là, quand je suis retourné dans ma chambre froide, j'avais acheté des petits navets, des beaux mini navets, oui. Bottes.
Bien calibrés.
Bien calibrés, qui n'étaient pas du tout locaux. Et je me suis dit, mais encore une fois, Florent, il n'y a pas de sens dans ce que tu fais. Ces navets-là sont très beaux, ils sont faciles à travailler, c'est chouette ce que tu achètes. Mais à côté de chez toi, tu as un mec qui est agriculteur qui se casse la tête et les mains et la santé. À essayer de sortir quelque chose donc que personne n'achète finalement. Et en fait, si tu veux que ta campagne soit dynamique, si tu veux que ces gens-là puissent venir manger chez toi, il faut que tu sois client.
Alors vous êtes chef cuisinier, mais vous êtes aussi chef d'entreprise et en privilégiant les produits locaux, plutôt que de faire venir du rouget du midi, c'est aussi une façon d'équilibrer les comptes, ça, en se servant de vos producteurs locaux à côté de vous, que vous payez au juste prix d'ailleurs, hein.
Oui, bien sûr. Je négocie jamais les tarifs avec ces gars-là.
Donc ça se bouscule au portillon, alors ?
Il n'y a pas, encore non plus énormément d'agriculteurs indépendants qui travaillent dans cette démarche-là. Il y en a de plus en plus et c'est bien. Après, moi, les maraîchers qui je travaille de façon historique, je ne vais pas les remplacer parce qu'en plus, pour la plupart, c'est des copains d'enfance. Donc on ne va pas changer ça. Mais c'est bien, oui, il y a de nouveaux producteurs. Là, je pense à Violaine, par exemple, qui fait du fromage, du yaourt de brebis bio sur le Mondeca. C'est quand même vachement bien de trouver ça aujourd'hui.
Est-ce qu'il y a un produit qui vous manque? Est-ce que vous dites qu'il y a un truc, ah là, franchement, je suis à deux doigts de craquer, ça me manque vraiment?
Bah, le sucre blanc, vous l'avez remplacé par de la vergeoise,
par la vergeoise,
le sucre local.
Ouais. Ouais. Ce qui me manque vraiment, non, rien ne me manque.
Le poivre?
Le poivre, non. Il y a du poivre d'eau, c'est un poivre sauvage, il faut mâcher, attendre 7 secondes et ça explose. Mais au pire, on travaille le réfort, on travaille la moutarde. Il y a la capucine, hein, qui est une herbe qui est un peu poivrée.
Oui, c'est vrai.
Non, il n'y a rien qui me manque. Il y a peut-être le citron qui me manquait il y a quelques temps, mais l'année passée, j'ai eu les 12 premiers citrons des Flandres.
Merci le réchauffement climatique, c'est ça. Hein, voilà. Alors, on vous retrouve dans ce livre, Florent Laden, Les Incontournables, paru aux éditions 180 degrés. Je le disais, vous n'êtes pas tout seul. Et il y a un autre chef qui est dans ce livre, qui s'appelle Jacques Marcon, qui travaille avec son papa Régis à Saint-Bonnet-le-Froid. Et nous l'avons au téléphone, ce Jacques Marcon. Bonjour Jacques.
Bonjour Laurent, bonjour.
Alors, pas facile d'être totalement locavore à 1200 mètres d'altitude pour vous, hein, Jacques Marcon. Et pour pallier l'absence de potager, vous avez décidé de redonner vie à une parcelle à 10 minutes du restaurant. Alors, elle n'est pas en Haute-Loire, mais elle est en Ardèche où le climat est un petit peu plus doux, on va dire.
Alors, attention, parce que là, je suis devant ma cuisine.
Oui.
Là, je t'explique pas, là, je vais te décrire les radis noirs, les carottes, les épinards, le maïs de mon jardin. Donc, ne commence pas à dire qu'on peut pas cultiver ici, déjà. Hein, c'est une fausse rumeur. Hein.
Mais
attention,
pas tout le temps.
Les préjugés. Et puis, tu verrais, là, les murs sauvages, les tricolomes colombettes, les pieds de mouton, les cèpes. Oh là là, je sais même pas ce que je vais faire à midi encore.
Alors, parle-nous des champignons, parce qu'on vient chez vous manger des champignons, Jacques Marcon. Qu'est-ce qu'on a en ce moment, là, parce qu'il y a eu des périodes de sécheresse et tout ça. Vous êtes bien achalandés, on peut venir manger des champignons?
Bah, nous, on a l'avantage, on a des mycologues, vraiment des gens qui connaissent. Moi, j'appelle ça je les appelle les druides de la nature, enfin, c'est des gens qui connaissent exactement les forêts et qui sont capables d'aller sur tel ou tel versant en fonction des pluies, en fonction des orages, qui me trouvent des petits trésors en champignons. Et même dans les périodes un peu sèches, on arrive quand même à en avoir un petit peu. On travaille moins sur le volume, mais plus sur le qualitatif, sur
lesquels,
des goûts différents. Mais
qu'est-ce qu'on mange là, en ce moment?
En ce moment, en dehors des cèpes, des girolles, des sparadis crépus, des trompettes très communes, là, en ce moment, on a de l'amanite rougissante, on a du bolet à pied rouge, on a de l'amanite crocea. Je viens de recevoir des tricolumes colombettes, voilà, et puis j'attends les premiers charbonniers qui vont arriver de Lozère demain, mon ramasseur en Lozère. Donc voilà, nous on vit aussi au rythme des saisons. Hein.
Bien sûr.
Pas les quatre saisons, parce que chaque semaine est une saison en soi. C'est de la vie dans l'assiette et c'est du bonheur, quoi.
Ah, c'est super, Jacques. Et petite question technique, tiens, qui fait débat souvent autour de cette table. On veut se faire une fricassée de champignons ce week-end à la maison. On sale avant les champignons ou on les sale après?
Ah, ça c'est l'éternelle question. Et moi je dirais, le champignon, le légume, c'est quelque chose de très vivant. Et finalement, être cuisinier, c'est s'adapter au produit, c'est le ressentir. Et moi, je donne toujours l'exemple d'une girole. Vous avez une girole qui a pris l'orage, qui est très humide. Il vaut mieux la saler à la fin, parce qu'elle va rendre beaucoup d'eau si vous salez au début. Par contre, une girole qui a beaucoup séché, il vaut mieux la saler au début, justement, pour qu'il y ait cette humidité qui ressorte un peu, voilà. Rajouter un peu de bouillon. Jamais cuire de la même façon. Et des fois, je mets les girolles à sécher à l'air parce qu'elles sont très humides. C'est vraiment s'adapter au produit et c'est le produit qui décide, c'est pas le cuisinier, quoi.
Ça, c'est de la précision. Ça. Merci Jacques Marcon et bonne journée dans votre belle Haute-Loire. Bon week-end.
Voilà pourquoi on va chez lui. Hein.
Oui, exactement. Les
bon,
incontournables.
À bientôt, Florent, en tout cas chez toi.
À bientôt chez Florent Laden, absolument. Florent Laden, reste avec nous en studio. Les incontournables, c'est le titre d'un livre paru aux éditions 180 degrés. On continue de parler de ces chefs responsables et engagés pour la protection de leur territoire et de la planète, juste après ça.
11h30 sur Europe 1, la table des bons vivants. Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Cuisiner responsable et bon, c'est le credo de Florent Laden, l'un des chefs dont 180 degrés a tiré le portrait dans son livre Les Incontournables. Le pop d'Olivier Pouls, il est raté votre pop, vous avez cassé le bouchon. C'est la première fois que ça vous arrive. Notre ami Florent Laden raconte ses recettes aux côtés de Jacques Marcon qu'on a entendu, Alexandre Couillon, Hervé Bourdon, Olivier Nasty. On en parlait là pendant la pause justement avec Yves Candebord. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'élan de la nouvelle cuisine, de la relève, il vient de la province et plus de Paris comme ça longtemps était le cas, Yves Candebord. Hein.
Oui, moi je pense qu'aujourd'hui, justement, la France gastronomique est en train de se réveiller et le réveil vraiment qu'il y a, le souffle qu'il y a, il vient de la province. Parce que tout simplement à Paris, on ne s'endort pas à Paris, attention.
Non, non.
Mais c'est vrai qu'à Paris, on a tous les terroirs de France qui sont avec nous. Donc on a une cuisine qui est, je dirais, française, mais il n'y a pas réellement d'identité précise. Et aujourd'hui, moi, ce qui m'intéresse dans la démarche de Florent et de tous les autres collègues, c'est justement de redonner de la vie à nos campagnes, de permettre à des paysans, à des agriculteurs, des éleveurs d'exister et surtout de ne pas être bloqué à se dire « on ne fait que des produits de chez nous, que des produits de notre région ». Non, se dire « mais on va inciter un agriculteur à faire pousser des citrons ».
Il crée des vocations, il y a plein de gens qui sont en reconversion grâce à vous aussi. Hein.
Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on va avoir, on va garder chacun nos typicités, mais avoir aussi une possibilité quand même d'ouverture dans nos assiettes.
Mais ça inverse la démarche du cuisinier, c'est-à-dire le cuisinier ne se dit pas « je veux faire ça, j'achète les produits pour », et dit « qu'est-ce que j'ai, je vais le faire ».
Typiquement, tiens, ce week-end, on vient manger chez vous à l'Auberge du Vermont, qu'est-ce qu'on va manger, Florent Laden?
Bon, bah maintenant on a les Saint-Jacques, on a les premières courges, mais également les derniers produits estivaux, donc les tomates sont superbes,
il y en a plus beaucoup, mais c'est la conjugaison, j'adore cette saison.
C'est génial, c'est des superbes moments là. On a du carrelé en ce moment, j'adore le carrelé.
Un poisson plat.
C'est mon poisson préféré.
Méconnu et bon marché en plus. Ah, oui.
C'est vraiment.
Et puis la révolution qui se passe, Olivier, par rapport à ce que vous disiez, c'est qu'avant on faisait des cartes, on faisait 4 cartes dans l'année, elles étaient figées. Aujourd'hui, la carte change tous les jours.
Elle évolue tout le temps.
Et c'est ça la magie aujourd'hui du cuisinier, c'est qu'il s'adapte un peu aux produits qu'on lui amène.
Florent Laden, vous appartenez à cette jeune génération qui cuisine en respectant les ressources naturelles, mais vous respectez aussi beaucoup les ressources humaines, qualité d'écoute, transmission, bonne entente. Je vous ai vu en cuisine, c'est pas une brigade, c'est une bande. Vous êtes une bande en cuisine, en fait.
Comme ici, comme
Hervé Bourdon, par exemple, dans le Morbihan, avec qui je parlais à la soirée de lancement de votre livre Les Incontournables, qui racontait aujourd'hui que trop de jeunes chefs ont été formés dans la peur.
On est une bande en cuisine, oui, on n'est pas forcément toujours une bande de copains parce qu'on est tout de même là pour travailler, parce qu'il y a quand même beaucoup de rigueur et puis il faut être sérieux. Mais on est une bande plus qu'une équipe ultra hiérarchisée parce qu'on avance tous dans la même direction.
Eh bien, merci beaucoup Florent Laden d'être venu à cette table. Allez chez Bloompot à Lille, boire de la bière maison chez Bierbuick. Et si l'envie d'un week-end dans les Flandres vous prend, stoppez à l'Auberge du Vermont parce qu'on peut y dormir maintenant. Hein.
Oui, il y a 5 chambres d'hôtes qu'on arrive 9 ans en février. L'idée, c'est vraiment bienvenue à la ferme, on dort à la grange.
C'est l'un des restaurants étoilés les moins chers de France. Chez vous, au déjeuner, on mange pour 21 euros. Vous avez une étoile à l'Auberge du Vermont. Merci beaucoup d'être venu.
C'est moi, merci.
Florent Laden, Les Incontournables, un très joli livre que je vous engage à lire parce qu'il n'y a pas que des portraits, il y a aussi de belles recettes de chef. Merci Florent Laden.
Merci.
Laurent Mariotte sur Europe 1.
Bientôt midi moins le quart, Jean-Luc Petit-Renaud, l'ami du déjeuner, est très bonne humeur. Depuis la semaine dernière, la pêche à la coquille Saint-Jacques est ouverte, on en parlait avec Florent. Écoutez la déclaration d'amour de Jean-Luc à la belle Pecten Maximus. Bonjour, bonjour l'ami des coquillages.
Bonjour les bons amis, j'espère que vous êtes prêts à goûter les premières coquilles Saint-Jacques qui arrivent sur le marché. Elle vit dans les fonds marins et quand elle vous aperçoit, alors elle a une attitude extrêmement drôle, c'est qu'elle prend peur. Et alors, vous savez, elle est en train de se reposer, elle est en train de lézarder, elle garde un vieux souvenir de vacances. Elle est sur sa chaise longue, la petite coquille, elle vous voit arriver et là, elle va faire sortir l'eau qui est à l'intérieur d'elle pour se déplacer. Ce sont les deux valves qui compressent comme ça très vite. Alors, vous imaginez la puissance que ça peut donner à la coquille. Ça fait... Et la coquille, comme ça, va sautiller dans les fonds marins. Alors elle est amusante. Vous vous approchez, vous tendez la main et hop, hop, c'est reparti. La voilà encore à l'autre bout. Quand on aura réussi à la capturer, on va y regarder ce qui se passe à l'intérieur. Et là, d'ailleurs, c'est un joli spectacle parce qu'il y a la noix, il y a le corail, la partie orange, il y a aussi la barre de tout autour. Est-ce que vous saviez que tout se mange ? C'est-à-dire qu'il faut, quand on la nettoie, on va enlever toute la barde. Et on peut faire des tripes de barde, exactement comme une tripe. En général, à la bière, et puis aussi le corail, eh bien on le garde pour faire les terrines ménagères de poissons, parce que ça apporte une jolie couleur. Et puis cette belle noix palpitante au milieu, avec un tout petit peu de beurre, on se régale. Vive la petite coquille Saint-Jacques.
Oh, on y était, merci
beaucoup.
On n'aurait pas dit mieux, un vrai documentaire animalier sur le déplacement de la coquille Saint-Jacques. Magnifique pour les bruitages, camarade Jean-Luc Petit. Vous le faites bien, Olivier Pouls. C'est vrai qu'on peut faire des tripes de barde de Saint-Jacques, Yves Candebord.
Oui, totalement. C'est une spécialité italienne. Du côté de Venise, ils font ça. Et c'est vrai que c'est très, très bon. Après, ce qui est délicat, faut vraiment, pour les laver, il faut vraiment les passer sous l'eau délicatement pour enlever vraiment toutes les impuretés. Et après, on les fait vraiment comme une tripe à la mode de Caen, tout simplement.
Alors, il y a Didier Robin, justement, à la Chenevière, à Port-en-Bessin, en Normandie, qui les fait très bien façon à la mode de Caen. Allez, on se retrouve juste après avec notre invité musicien et bon vivant dans l'âme. On se réjouit de le recevoir. C'est Manu Di Bango, avec son saxo ou pas avec son saxo? Mais on va le savoir.
J'espère avec le saxo.
Allez, intérêt. A tout de suite sur Europe 1.
La table des bons vivants sur Europe 1. Laurent Mariotte sur Europe 1.
Bienvenue si vous nous rejoignez. Les premières châtaignes et les premières coquilles Saint-Jacques sont arrivées. Tout comme notre invité qui vient d'arriver, compositeur, multi-instrumentiste. Ça fait 8 décennies que la musique coule dans ses veines. Il a grandi au Cameroun jusqu'à l'âge de 15 ans. Arrivé en France, il a commencé par cavaler sur un orgue en accompagnant Nino Ferrer ou Dick Rivers. Puis il a troqué le clavier pour le saxophone, son instrument de prédilection avec lequel il enflamme le monde entier. Avec plus de 30 albums au compteur, il va faire bouger le Grand Rex le 17 octobre avec un orchestre symphonique, s'il vous plaît. Manu Di Bango est notre invité. Bonjour Manu, ravi de vous recevoir.
Merci à vous.
Où est le
merci,
saxo, Manu
merci, le préambule.
Et le saxo
Le saxo m'a rien demandé. Moi, quand on me demande...
Je viens avec.
Du saxo avec le... Ça aurait été bien quand même, hein, le château...
Château-Neuf-du-Pape.
Ça me donnait un meilleur son, quoi.
on va en parler dans un instant, justement, du Château-Neuf-du-Pape avec Olivier Pouls. Juste avant de vous découvrir de l'autre côté de la fourchette et de mieux faire connaissance avec vous, Manu Di Bango, on va se remettre un petit peu en musique justement un de vos tubes.
D'accord.
Soul Makossa.
Sama kusa, kuma kuma kuma.
Puma, 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 Puma.
Ah, on est bien là, hein. Cuisiner avec du rythme, le rythme de Manu Dibango ce samedi midi. Franchement, c'est super. Dites-moi, Manu Dibango,
oui.
Vous seriez pas fait un petit peu piquer un thème de cette musique par Michael Jackson?
J'aime bien piquer. Ne me pique pas, si il a piqué.
Il a piqué?
Non, mais gentiment, je suis fier qu'il ait pris un truc à moi. Ça veut dire qu'ils nous écoutent aussi, parce que d'habitude, c'est nous qui les écoutons. Deuxièmement, on fait travailler les avocats.
Voilà. Quel est votre goût de la semaine, cher Manu Dibango? Parce qu'on le sait, vous êtes un gourmand.
Ben, en ce moment, je suis sur le sol braisé, moi.
C'est bien, le sol braisé.
Mais bon, le poulet braisé, il est pas mal. Non, je suis là, le braisé, en ce moment.
On va faire un poulet braisé dans un instant, justement, pour vous, avec le plat du jour. Une sole braisée que vous faites vous-même ou que vous mangez au restaurant?
Ah non, moi, je suis un épicurien. On fait pour moi.
C'est bien dit. Alors, justement, la cuisine, pour lui, c'est tout un art. Yves Candebord, qui est à côté de vous, il maîtrise tellement les basses qu'il aime faire des solos improvisés avec des instruments qu'il découvre pour nous. C'est le cas ce samedi avec une nouvelle cocotte, cher Yves Candebord. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette nouvelle cocotte?
C'est le creuset qui a sorti une cocotte qui est assez particulière, donc que je trouve très mignonne, parce que c'est une cocotte qui est un peu en hauteur, qui est toute ronde.
Et petite, hein.
Qui est petite. Mais alors, elle est petite, mais attention Laurent.
Costaud.
Elle contient plus de 2 litres. Donc, on peut cuisiner pour 4 personnes sans aucun problème.
C'est en fonte, un matériau que vous aimez beaucoup, Yves.
Oui, la fonte, mais là, c'est la fonte, c'est la fonte française, c'est fabriqué en France. Et c'est vrai que la fonte, quand on cuisine dedans, on a un rapport avec elle. Elle a un rapport avec le produit, c'est une caramélisation, parce qu'il y a la chaleur qui est uniforme durant toute la cuisson. Pour nous, les cuisiniers, c'est vraiment le matériau le plus pratique à cuisiner.
Mais ça, c'est le cas de toutes les cocottes. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, celle-là?
Alors, celle-là, elle a, vous allez la voir, regardez-la bien, elle est ronde.
Arrondie,
elle, ouais. Elle est arrondie sur le fond.
Elle a un petit
cul
arrondi, oui.
Elle a le couvercle du haut arrondi aussi. Ce qui fait qu'on a une très très bonne répartition de la chaleur quand on cuisine un plat préparé.
D'accord, mais qu'est-ce qu'elle a de particulier vraiment?
Alors, elle a de particulier qu'il y a un second couvercle. Il y a un couvercle en céramique qu'on met à l'intérieur et on met le second couvercle dessus. Ce qui permet de garder le moelleux. Il y a une forme d'humidité, de vapeur qui se fait à l'intérieur de la cocotte qui va garder tous les ingrédients moelleux. Si on fait un bœuf bourguignon, si on fait une blanquette de veau, un pot-au-feu, on aura la viande beaucoup plus moelleuse que d'habitude.
Ça veut dire que Manu Dibango, qui n'aime pas cuisiner, peut se mettre à cuisiner grâce à cette cocotte, alors.
Laurent, j'aurais pu faire, je sais que je vous aurais fait plaisir, j'aurais pu faire un bœuf bourguignon, j'aurais pu faire une blanquette de veau, j'aurais pu faire
des carbonades à la flamande.
Des carbonades à la flamande.
Un poulet
Ouais, alors en Belgique, tiens.
Non, mais je suis, parce que je trouve que c'est une cocotte multi-usage pour la famille. Ça peut être utilisé par les parents et par les enfants. Je me suis amusé à faire un plat hawaïen, un pokéball.
Ah oui, le pokéball, c'est ce plat unique qu'on voit partout dans les restaurants, un peu partout en France. Aujourd'hui, avec du riz, on peut mettre des légumes, de la viande, du poisson, quoi.
Et là, en 12 minutes chrono, j'ai un pokéball qui est magnifique. 200 g de riz, 120 g de liquide. Là, j'ai fait moitié vinaigre de riz, moitié eau. Donc ce riz, j'aurais pu l'utiliser aussi pour faire une sushi partie à la maison. L'utiliser pour faire des sushis, ça aurait été magnifique. Une fois que le riz était cuit, là, au bout de 10 minutes, j'ai rajouté dessus courgettes, tomates, des aiguillettes de poulet, un peu de noisettes, des poivrons. J'ai refermé 3 minutes. J'ai rajouté après à la fin des herbes, un petit trait d'huile d'olive. Et j'ai un plat qui est savoureux. J'ai
ça sent bon, ça sent bon, ça embaume dans le studio Coluche.
Qui est équilibré et qu'on peut faire en moins de 10 minutes.
Parlons des choses qui fâchent, ça coûte combien?
Alors Laurent, ça coûte cher.
Ah. Non, quand ça commence comme ça.
Je vais vous dire quand même le prix, il faut le dire, ça coûte plus de 190 euros.
Ouais, donc presque mais 200 euros. Ouais.
Une cocotte, c'est pour la vie. Moi, j'ai la cocotte de ma grand-mère. Ma grand-mère l'avait donnée à ma mère. Ma mère me l'a donnée et je la donnerai à mes enfants. C'est des investissements pour la vie.
Encore une fois, vaut mieux faire un investissement comme ça en mettant le prix une bonne fois pour toutes et pas racheter plusieurs fois des cocottes qui ne sont pas de qualité.
En plus, une cocotte comme ça qui est multi-usage. C'est ça l'intérêt.
Eh bien, merci Yves Candebord. Il la regarde avec de jolis yeux, Manu Dibango.
Non, parce que moi, j'aime bien d'ailleurs quelqu'un qui parle de la cuisine. J'adore les émissions culinaires, d'ailleurs.
C'est pour ça qu'on vous a invité.
Non, mais c'est vrai, parce que c'est un art, non seulement de faire, mais d'en parler. Parce qu'il donne envie.
Vous aimez toujours la cuisine camerounaise, Manu Dibango?
Ah bah ouais,
ça nous arrange. Parce qu'on revient dans un instant avec un plat qu'on a cuisiné spécialement pour vous, justement. Un joli poulet que vous pourrez refaire ce week-end à la maison. Ce sera juste après les titres du journal de la mi-journée de Fabienne Lemoyle. A tout de suite, les amis.
C'est moins cher dans le marché couvert. Allez, allez.
Allez, 3 pizzas gratuits, la madame dans le melon. Du beau melon, les 4 pour 5 euros.
Europe 1, 11h30, la table des bons vivants. Laurent Bariotte.
Des châtaignes, des marrons, un dossier sur les chefs engagés pour une gastronomie responsable dans nos régions, un joli plat camerounais dans un instant, et bien comme tous les samedis, la table des bons vivants prône l'éclectisme, comme notre invité Manu Dibango. Vous êtes pour l'éclectisme en musique, hein ? Rien ne vous arrête.
En tout d'ailleurs, en
dans
fait,
tout.
J'essaye.
Oui,
j'essaye,
pas de frontières.
J'essaye. À musique sûrement.
Pas de frontières dans la musique, pas de frontières en cuisine, surtout pas.
La frontière, c'est les hommes, hein. C'est pas les frontières elles-mêmes.
Hein. Vous avez raison. Et quand vous êtes arrivé en France à l'âge de 15 ans, peu de temps après, vous avez commencé à jouer de la musique, vous étiez au clavier, parce que le clavier, ça vient de quelqu'un de votre famille qui jouait de l'harmonium, je crois. Hein.
Mon oncle paternel jouait de l'harmonium à l'église les dimanches, puis ma mère, qui était couturière, elle dirigeait aussi. Alors, des deux côtés, du coup, je suis né dans Alléluia, quoi.
Et vous avez joué ensuite pour Nino Ferrer et Dick Rivers, où vous étiez au clavier. Vous avez fait toutes les routes de France avec eux. L'occasion de découvrir de beaux petits bistrots, de beaux routiers.
Ah ben, les routiers à l'époque. Maintenant, avec les autoroutes, tout est uniforme.
Et pas bon.
Hein? Non, c'est pas bon là. Tandis que quand il y avait les routiers, il y avait une carte de France de routiers. C'est les mamans même du coin qui faisaient à manger. C'était une autre France d'ailleurs.
Quels sont les plats que vous appréciez le plus,
Manu
Dibango?
Les ragoûts. J'aime bien aussi les pot-au-feu. Et comme je débarquais dans la Sarthe, moi, à la Sarthe, ils font de la soupe au vin.
Ça a dû vous surprendre,
avec
ça,
des croutons, avec des croutons là-dedans, après. Hein, mais bon, ça c'était 1900 longtemps. Hein.
C'est joli, 1900 longtemps. Eh bien, on va vous emmener déguster un plat camerounais spécialement fait pour vous, Manu Dibango. C'est l'heure du plat du jour. C'est un plat de famille et de grande tablée, un beau poulet DG, on l'appelle comme ça. Parce que
c'est un poulet qui se débrouille. Quoi.
Voilà, directeur général, exactement. DG, c'est pour directeur général, parce qu'il tient son nom du fait qu'on ne le préparait que pour les hommes influents. On vous emmène dans un restaurant du 20e arrondissement de Paris. Vous connaissez peut-être, c'est Oinéné. Ça vous dit quelque chose?
Non, mais il y en a plein de restaurants. Enfin, moi, j'en connais d'autres, mais je ne connais pas celui-là.
Eh ben,
mais probablement, il doit être bon.
Il est très bon. La chef Oinéné a cuisiné pour vous le poulet DG. Julien Amat a mis la main à la pâte. On écoute.
Vu que le four est chaud, on va mettre le poulet à braiser. Poulet qui a été mariné avec citron, gingembre, beaucoup d'épices, pour apporter un petit côté un peu fumé. Moi, je vais faire le poulet DG en faisant un petit clin d'œil à ma maman de substitution qui est camerounaise aussi, donc à qui j'ai demandé la recette. En fait, c'est tout ce qu'on a sous la main. C'est un ragoût, en fait. Comme ici, la daube de bœuf. Voilà.
Alors, vous avez débarrassé les poireaux et l'oignon. Oui. Et là, vous avez mis poivron, une purée de gingembre, d'ail.
C'est dommage qu'on n'ait pas l'odeur. Mais ça sent très, très bon. Des bananes plantain. Entre le tigré, donc comme on a là, jaune avec des petits traits noirs, donc ils sont tigrés. Ce n'est pas une banane qu'on a l'habitude de consommer. Il faut la consommer cuite. En Afrique, c'est un accompagnement qu'on retrouve partout, hein, qui accompagne tout, viande, poisson, plat en sauce, voilà. On a la cuisse, on a le blanc, on a l'aile. Ça a bien doré, c'est bien caramélisé. Et... Vous avez envie, là?
Ça donne faim.
Voilà. Bon, là, les bananes bien caramélisées, voilà. Vous voyez? Ça confit, c'est ça le but du poulet DG. Hein.
C'est bon.
Je pense que ma mère sera très contente de la recette du poulet DG.
Et Julien Amat était sympa, il n'a pas tout mangé, il nous en a rapporté. Et on le déguste à cette table en faisant l'émission, en vous parlant.
C'est délicieux.
Voilà, il est midi, c'est vraiment l'heure de manger ce joli plat. Qu'est-ce que vous en pensez, Manu Dibango?
Il y a les bananes.
Les bananes, oui.
Il y a les bananes plantain.
Exactement.
Et là, c'est les plantains, donc mais sucrés.
Qu'on appelle Aloco aussi.
Aloco en Côte d'Ivoire.
Oui, vous avez fait une chanson d'ailleurs
qui s'appelle... Ah ben, hein? Aloco Party.
Aloco
oui.
Party, c'est ça, c'est...
Parce que j'ai vécu à un moment donné à Abidjan, je dirigeais l'orchestre de la télévision. Là, mais c'est très bon. Hein. Ils sont très mûrs. Au départ, il faut les prendre bien mûrs. Et ensuite, il y a un fondu avec l'huile de palme.
Oui, c'est un ragoût, celui-ci. En tout cas, le poulet DG façon camerounaise. Qu'est-ce que vous en pensez, Yves Candebord?
Je trouve ça très très bon.
L'aventure de la gastronomie.
Non, mais c'est très très bon parce que ça a du goût, voilà, ça a du caractère.
Ouais, c'est bon,
enfin,
ça.
C'est épicé. Et les cuissons, c'est une cuisson en plus, on a un peu de croquant quand même, et le moelleux à la fois. Bon, c'est très bon.
Il y a du sucré en plus.
Ouais, il y a un peu de sucré.
Ouais, il y a sucré salé.
Oh, il est né dans le 20e arrondissement de Paris. Et comme il faut toujours finir sur une note sucrée, cher Manu Dibango, je vous offre un marron qui vient de l'Ardèche, de la maison Sabaton. Ah. Un joli marron glacé, parce qu'on a ouvert l'émission avec des marrons. Qu'est-ce qu'on boit avec ce poulet, Olivier Pouls?
Mais je finis ma bouse d'abord.
Ah, je vous ai gaulé.
Et après,
là.
Je vous conseille éventuellement.
Pas la bouche pleine.
C'est vrai que le sucré salé, c'est pas facile. Donc plutôt du blanc. Légèrement sucré, mais pas trop, mais avec une belle trame acide. On pourrait aller en Alsace
très
avec
bien.
Une vendange tardive.
Eh bien voilà, il a la réponse à toutes les questions. Ne bougez pas, on revient dans un instant avec Manu Dibango, notre invité, qui sera au Grand Rex le 17 octobre avec un bel orchestre symphonique. Nous serons là pour l'écouter avec son joli saxophone et on revient dans un instant avec les questions que vous posez au répondeur des 39-21 sur lui des bons vivants. A tout de suite.
La table des bons vivants sur Europe 1. Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Des châtaignes pour rentrer tout doucement dans l'automne, des jeunes chefs à l'assaut d'une cuisine durable, un poulet DG pour se réchauffer, ça balance pas mal à la table ce matin. Le saxophoniste Manu Dibango est à nos côtés. Il est venu prendre des forces avant son grand concert du 17 octobre au Grand Rex. Vous êtes bien nourri Manu, tout va bien ?
Ça va dans l'immédiat, je me plains pas quand même.
Vous l'avez dit, hein, vous êtes un vrai épicurien, donc vous ne cuisinez pas et vous vous attendez qu'on fasse de bonnes choses.
C'est
pour
vrai.
Vous. Quelle est votre adresse gourmande du moment, tiens ?
Alors, ça s'appelle Le Coq Noir. C'est une amie qui a un restaurant là depuis une dizaine d'années, hein, à Porte de Clichy. La cuisine est mixte. On peut manger camerounais, on peut manger occidental français aussi. Souvent, à midi, elle fait beaucoup de cuisine... française. Et le soir, elle fait une cuisine un peu plus en rapport avec le Cameroun. Quoi.
Quand vous retournez au Cameroun, qu'est-ce que vous aimez manger ?
On a une cuisine tellement diversifiée. On a un pays avec 230 dialectes. Et derrière chaque dialecte, il y a au moins un plat.
Ah ben là, et vous les avez tous goûtés ou pas encore ? Non,
là, mais ça laisse disons du temps. Qu'il y a beaucoup de diversification dans nos trucs. Alors moi, je suis né du côté de la mer, moi, Douala, et donc beaucoup de poissons, hein, et beaucoup, beaucoup, beaucoup de poissons chez nous. Il paraît que ça l'a intelligent, alors j'essaye.
Et ben nous aussi, alors tous aux poissons. Vous le savez, chaque samedi, la bande des bons vivants est à votre écoute avec les questions que vous posez sur notre répondeur. Le 39-21, en voici une et on vous répond.
Oui, bonjour, c'est Émilie de Paris. Ben, merci beaucoup de prendre ma question. En fait, moi, je me demandais par rapport à la soupe de potiron, comment faire pour faire une bonne soupe, c'est-à-dire avec les bonnes épices. Qu'est-ce que vous recommandez ? Qu'est-ce qui se marie bien avec le potiron ? Voilà, bah, merci beaucoup.
Merci Émilie pour votre question. Et c'est vrai, vous avez raison, le potiron et le potimarron adorent les épices, Yves Candebord.
Oui, totalement. C'est vrai que c'est un légume qui apprécie énormément les épices. Alors moi, je vais vous surprendre parce que j'ai un petit dada avec les soupes de potiron, c'est le cacao.
Ah oui,
ouais.
Ah
bah ça, j'adore faire une soupe de potiron de façon assez traditionnelle, classique. Et après, juste quand on la met dans l'assiette, saupoudrée avec un peu de cacao. Et je trouve que ça amène, voilà, ça amène une onctuosité,
une amertume,
une petite amertume avec la rondeur du potiron. Et c'est une association qui fonctionne à mon goût parfaitement.
Autre chose, mais qui n'est pas une épice, ce sont les champignons, les trompettes de la mort qu'on cultive en ce moment, qu'on peut sécher comme ça, hein, je l'ai déjà dit, et on les met comme ça juste sur le velouté de potimarron, ça marche bien. Olivier Pouls.
Pour les épices, le curry, une petite pointe de curry, c'est délicieux.
Ou un mélange de quatre épices aussi.
Exactement, oui. Moi, j'aime beaucoup le curry.
Oui, et vous aimez...
Moi, j'adore les champignons en règle générale. Hein.
Et le potimarron.
Non, j'aime bien la soupe au potiron, par contre.
Ouais. Nature, sans rien.
Comme ça, avec un peu de sel, mais avec du piment.
Ah, voilà, ben bien sûr.
Piment oblige.
Quel piment vous aimez ?
Ben, le piment du pays, quoi, celui qui est expressif, quoi.
Celui qui arrache bien.
Voilà,
celui qui réchauffe.
Moi, j'appelle ça du piment expressif, quoi. il répond bien à la langue. D'ailleurs, je voyage toujours avec mon pot de piment hein, fait maison. J'ai du mal à manger sans piment. Parce que quand j'étais petit, dans ma famille, il n'y avait pas de la nourriture pour les enfants et pour les grands. On mangeait la cuisine que tout le monde mangeait. Et dans ma famille, beaucoup de piment, donc je suis piment.
Et ça veut dire que votre organisme est habitué à manger du piment
depuis
le plus jeune âge. C'est ça qui est génial. Parce que nous, quand on se met au piment...
On peut transpirer parfois.
Le rouge est mis.
C'est ça, le rouge est mis, exactement.
On n'a pas la culture.
C'est l'heure de votre question, Manu Dibango. Une question autour de la cuisine. On vous écoute.
Ouais, alors, y a un fruit qui m'épate. J'ai tellement entendu parler. La grenade, là. Vous voyez la grenade ?
Ouais,
on adore.
J'adore la voir. Je me dis toujours que je vais acheter la grenade. Et puis, j'achète jamais. Mais je me promets un jour de manger. Alors, je me demande comment on épluche ça pour que ça...
Eh, vous avez raison, c'est technique, parce que ça peut éclabousser, on peut mal l'éplucher. C'est quoi votre truc, Yves Candebord, vous ?
Alors, je la coupe en deux. Après, je prends un saladier, je la retourne, et avec une cuillère, je tape dessus. Je tape sur la coque.
Pour la
décoller. Et là, j'ai tous les grains qui vont tomber les uns après les autres dans le saladier. Voilà, c'est assez simple. Il ne faut pas avoir, à la limite, une cuillère ou carrément un petit marteau, un petit maillet. Voilà, en tapant régulièrement, on arrive à tout faire tomber.
Alors ça tombe tout seul.
Ça tombe tout seul.
Et alors tu y vas après, quoi.
Après les grains, il y a plusieurs façons de les utiliser. Alors si on veut faire un sirop, mais ce qui est très très bon, c'est dans les salades. Dans des vinaigrettes.
Ah bon?
C'est très très bon parce que ça amène un peu de croquant et aussi ça amène une acidité. Ou même un steak tartare. Une viande hachée, assaisonnée de sel, de poivre, juste un trait d'huile d'olive, et mettre dedans une bonne cuillère à soupe de grains de grenade, ça donne un steak tartare un peu exotique.
Ah,
c'est très agréable. Il y a juste la pointe d'acidité.
Pareil que c'est très bon pour la santé,
C'est très bon pour la santé, comme le piment.
Exactement, c'est très bon. C'est blindé d'antioxydants. Et puis pour nous les hommes, ça nous aide à bien prendre soin de notre prostate. Donc c'est très important, la grenade. Vive la grenade, c'est vrai qu'elle nous veut du bien. Nous sommes attablés jusqu'à 12h30 avec Manu Dibango, qui sera le 17 octobre au Grand Rex à Paris. Manu, nous allons vous passer sur le grill du questionnaire des bons vivants dans un instant. Ça vous va ?
Ça va
chauffer, hein, comme le piment du Cameroun.
On va voir.
À tout de suite sur Europe 1.
On passe à table sur Europe 1. On passe à table sur Europe 1. Laurent Mariotte.
Bonne cuisine les amis, si vous êtes en train de la faire, et bon week-end tout court. Merci pour votre fidélité, hein. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre sur la page Facebook des bons vivants pour partager vos recettes et vos découvertes. Un bon vivant justement est à notre table, on mange un bon poulet DG que vous retrouverez sur le site europe1.fr. C'est Manu Dibango, notre invité. Manu, vous avez joué à l'Apollo à Harlem, c'est une salle dans laquelle on jouait James Brown, Barry White, les Temptations. Vous avez repensé à l'époque où vous écoutiez justement Sidney Bechet, par exemple, derrière le transistor, quand vous avez joué dans cette salle?
C'est-à-dire, pendant toute ma jeunesse, je rêvais. C'était juste un rêve, hein. Mais pour moi, c'est devenu une réalité avec ce que vous avez joué tout à l'heure, Mamako, Mamasa, Mamako. Et j'arrive dans cette salle-là, c'est un peu comme l'Olympia ici, en fait, l'ancienne Olympia. Et quand tu arrives à l'Apollo, à la 125e rue, tu regardes les murs de l'Apollo avec les photos de ces gars, tu es déjà dans un autre monde, quoi. Parce que c'est quand même une époque qui n'existera plus jamais. Ces gars-là, c'était des E.T., hein. Ils ont délivré leur message, ils sont repartis, hein.
Mais le 17 octobre, vous allez nous emmener dans un autre monde, vous aussi, avec cet orchestre symphonique, oui, avec qui va se passer des choses au Grand Rex, là.
Avec ça porte bien son nom, d'ailleurs.
C'est pas la première fois que vous jouez avec un orchestre symphonique.
Non, non. Cet été, d'ailleurs, j'ai fait des festivals avec et l'Orchestre National de Lyon et l'Orchestre Lamoureux. Mais avant ça, j'ai joué dans d'autres pays. J'ai joué avec Kazatsu, à Lille. Et ça s'est très bien passé, et puis j'ai eu l'idée, un jour, avec Bertrand Delanoë, qui était maire de Paris, de faire un truc, et il m'a fait rencontrer l'Orchestre de Paris. On a joué 2 jours à Bercy, mais c'était vraiment en privé, quoi.
C'est sympa, Bercy en privé, c'est une petite salle, c'est intime.
Oui, mais c'était pour son personnel.
Est-ce que vous aimez le vin, Manu Dibango?
Ah oui, alors là, si je devais faire un procès à la France, ce serait à cause du vin, parce que nous, on était à l'école, on buvait du vin à l'école, nous. Hein.
Ah, c'est dingue, ça, c'est vrai.
Oui, oui, ouais, dans les années... j'étais dans la Sarthe, à Saint-Calais, à côté du Mans, là, et à midi, bon, on coupait le vin avec la flotte, quoi. Mais ben, tous les lycées, enfin les collèges et tout ça, avaient du vin à table.
Alors, nous aussi, on a du vin à table, mais que pour les adultes. Ce sont les 2 minutes du vin d'Olivier Pouls. La chasse est ouverte, cher Olivier, avec le gibier. On boit des vins particuliers, nous sommes d'accord.
Ben vous savez, il y a une saison pour les vins, un peu comme pour tout. Et c'est vrai que la saison du gibier, c'est une saison bénie pour les vins. Les accords en été avec les légumes, c'est un petit peu plus compliqué. Mais alors là, on va se régaler, on va se lâcher. Le gibier, c'est l'ami du vin.
Alors on vous écoute. Quels sont les accords gagnants? Parce qu'il y a 2 sortes de gibier déjà. Hein. Ben,
on va déjà différencier les gibiers à poils et les gibiers à plumes, hein, qui n'ont pas tout à fait les mêmes goûts, les mêmes saveurs et les mêmes textures. On va commencer par les gibiers à plumes, en général un peu plus délicats. On peut penser au canard sauvage, par exemple, au perdreau, il faut les respecter. Donc moi, j'aime bien servir des bourgognes. J'aime bien souvent servir d'ailleurs des vins qui ont un petit peu d'âge avec le gibier, parce que le vin, quand il prend de l'âge, il prend des notes un petit peu giboyeuses aussi, et je trouve que l'accord marche extrêmement bien. Alors quand on monte en puissance, la bécasse par exemple, magnifique gibier, alors, on précise que la bécasse, on ne peut pas la vendre, hein,
oui,
on peut la cuisiner.
Ça ne se commercialise pas.
Exactement.
Oui.
La bécasse, par exemple, avec des syrahs du nord de la Veille-du-Rhône, c'est une pure merveille. Et puis la grose, qu'on trouve là aussi en ce moment, qui est un gibier là pour le coup beaucoup plus puissant, avec des notes plus affirmées, on peut descendre dans la Veille-du-Rhône jusqu'à Châteauneuf-du-Pape, par exemple.
Alors, Pinot Noir, Syrah ou Châteauneuf-du-Pape pour les plumes, et à poil.
À poil, la tendresse d'un filet de biche avec un grand vin du Médoc, par exemple, un filet de chevreuil un tout petit peu plus marqué avec un vin de Saint-Émilion, du sanglier, c'est vrai que c'est un gibier très commun, et puis là, vous en avez. Laurent, oui. Vous nous avez apporté une petite terrine.
Oui, absolument. Alors, de chez Gilles Véraud, c'est une terrine de cochon du Perche avec du sanglier à l'intérieur. C'est un petit peu comme le jambon persillé de Bourgogne, ça ressemble un petit peu à ça. C'est très très bon, moi personnellement, j'aime beaucoup.
Il y a du goût, pas trop. Je vous ai apporté un vin d'une dizaine d'années, Châteauneuf-du-Pape, tiens, juste. Justement, c'est un 2011 et je trouve que ça commence à se fondre un peu. Et c'est vrai que le gibier, il a besoin du répondant, il a besoin d'un vin qui se mette à sa hauteur et qui puisse lui parler. Donc là, je pense qu'on est
délicieux.
On n'est pas trop mal.
Manu Dibango, vous validez ?
C'est
ça vous
délicieux.
Plaît ? Ah, c'est bon. Et il tabasse un petit peu quand même ce Châteauneuf-du-Pape. Bon, il y a de l'alcool.
On est dans le sud de la Veille-du-Rhône. Ce sont évidemment des vins qui sont un peu charpentés. C'est pour ça qu'il faut les prendre un peu plus âgés, que le feu de l'alcool ait eu le temps d'un petit peu de s'assouplir. Mais voilà, c'est vrai que c'est une saison que j'adore, la saison du gibier qui va la durer quelques semaines, voire quelques mois. C'est l'occasion d'aller puiser les trésors des vieux vins qu'on a dans sa cave.
Merci Olivier Poulce, et on vous retrouve évidemment tous les jours dans la belle équipée sauvage du camarade Mathieu Noël, où on rigole bien et où on apprend des choses également dans cette belle émission, et on mange grâce à vous Olivier. Allez, c'est l'heure du questionnaire des bons vivants, nous allons passer Manu Dibango sur le grill. Un grand barbecue. Alors, le goût de votre enfance, cher Manu Dibango.
J'ai des goûts poisson, j'ai des goûts viande. Alors chez nous, on ne mange pas tellement du mouton, on mange de la chèvre. Dans les grands jours, hein, c'est les cérémonies. Bon, le poulet, évidemment, le poulet, lui... par contre, le poulet, nous, c'est le poulet bicyclette.
Oui, racontez, voilà. Ça veut dire quoi, le poulet bicyclette ?
C'est le poulet qui se débrouille tout seul, quoi.
le premier plat que vous avez cuisiné ?
Oh, je ne suis pas terriblement cuisinier, moi, enfin...
On a tous un plat qu'on réussit.
Oui, mais quand on était gosse, c'était du pilchard avec du riz, hein. Le pilchard, c'est dans une boîte, il y a déjà la sauce, qui est, c'est des préchettes, quoi. Tu n'as qu'à ouvrir la boîte avec le riz.
Votre plus beau repas, Manu Dibango ?
Un des plus beaux repas, c'est quand je suis allé en Espagne, je suis allé à San Sébastien, et c'est la première fois que j'ai mangé la paella.
Ça vous a plu ?
Ah oui, parce que ce riz jaune avec des fruits de mer et tout ça... C'est marrant parce que j'avais 18-19 ans, je connaissais pas beaucoup des trucs. Et ça m'avait terriblement plu parce que c'est coloré, c'est divers dans les fruits de mer avec une espèce de...
C'est terre et mer mélangées, hein.
C'est ça.
Votre pire repas ?
Ça s'est passé en Amérique latine, j'ai jamais tant mal mangé. Je suis allé en Colombie et on m'a servi un poisson avec des œufs immangeables pour moi, peut-être succulent pour eux.
Ça vous a
moi,
pas plu.
C'est le pire truc que j'ai mangé, ça, en Colombie, quoi.
Quel plan mèneriez-vous sur une île déserte, Manu Dibango ?
Une choucroute et puis un dolet. Choucroute côté français et puis le dolet, c'est des légumes camerounais avec des plantains sucrés, quoi.
Ah, comme les plantains qu'on a mangés, voilà, avec le poulet DG.
Voilà, un peu de piment.
Qui sont les invités de votre dîner idéal ?
Ouf, il y a des artistes là-dedans. Il y a des Louis Armstrong, c'est si bon, hein, parce que lui, voilà, quelque chose comme ça. Il y a Ray Charles, il y a Brassens, parce que lui aussi, c'était un bon épicurien, Brassens. Le père Nino, parce que...
Nino Ferrer.
Oui, il adorait manger. Quand on avait des jours où on ne jouait pas, on partait, on achetait des moutons, on allait dans la forêt du coin, et on faisait des barbecues.
Oh, des méchouis.
Terrible, ouais, des méchouis incroyables avec lui, quoi. On arrêtait la voiture comme ça, on achetait des trucs.
on peut plus faire ça aujourd'hui. On peut plus faire ça.
Dommage.
Le mot de la fin, FIM, Manu Dibango.
Je plains beaucoup de ceux qui ont faim et qui n'ont pas moyen de profiter de belles choses culinaires de la vie.
Eh bien, vous avez raison. Pensons à partager, pensons aux autres. Merci, ouais. Manu Dibango, d'être venu à cette table. On est ravis de vous avoir reçu. On vous retrouve le 17 octobre au Grand Rex à Paris avec un bel orchestre symphonique. Merci à toute la bande des bons vivants, Lucie Lescourou, Julien Amat, Agnès Vaudin et Jean-Luc Herblade à la réalisation. On revient la semaine prochaine. On a encore plein de bonnes choses pour vous sur le feu. Nous serons avec Jean-Louis Debré. C'est samedi, il fait beau sur une belle partie de la France. Profitez-en, faites le marché, la cuisine et le reste aussi. Bon week-end et merci, Manu Dibango.
Merci de m'avoir invité.
Encore un petit c'est si bon peut-être ?
C'est si c'est bon.
Pas d'un de manger ce que je suis en train de manger.
Salut Justine. Merci Yves. Merci Olivier.
Merci Laurent.
Merci Laurent. Samedi prochain, 11h. Ne bougez pas dans un instant. Vous serez avec Fabienne Lemoyle pour votre journal de la mi-journée. Et à 15h, ce sera Il n'y a pas qu'une vie dans la vie avec Isabelle Morizet. Isabelle qui reçoit aujourd'hui l'actrice Isabelle Nanty. Alors passez un très bon samedi. Il est midi 27.